soir, je voudrais donc, avec vous, puisque je ne suis pas venu le 26, mettre trois aspects ensemble, qui se tiennent du reste. Vous comprenez très bien que tout ce que nous disons peut se développer énormément, et en même temps, il est bon de saisir les arêtes. Que ce que nous essayons de saisir, c'est ce qui caractérise une éthique chrétienne. Alors, je vais prendre virginité, miséricorde et pauvreté dans l'éthique chrétienne. Alors, je vous rappelle, pour que vous compreniez bien, nous sommes dans une perspective de philosophie, et non pas de théologie, c'est-à-dire que à la place de partir de la révélation, donc dans un regard de Dieu, regarder l'homme, je regarde l'homme qui est transformé par Dieu. J'espère que vous voyez bien la différence de regard. Je peux ou regarder l'homme dans la lumière de Dieu, et dans la lumière du Christ, ce qu'on fait en théologie, où je peux regarder l'homme qui pâtit par la grâce de Dieu et qui est transformé par la grâce de Dieu. Et là, j'ai le regard de l'éthique chrétienne.
Tandis que,
en théologie, je partirai directement de la révélation pour regarder l'homme dans la lumière de Dieu. Alors, nous avons trois grands aspects qui, je crois, sont très importants à bien saisir. Pas commode. La virginité, la miséricorde et la pauvreté. Sommes-nous en présence, je ne dis pas de trois vertus chrétiennes, parce que la pauvreté n'est pas une vertu. C'est un esprit qui, d'une certaine manière, enveloppe l'esprit de virginité et la miséricorde. La virginité et la miséricorde sont des vertus. Mais la pauvreté n'est pas une vertu. Alors j'explique tout de suite pour que vous compreniez bien, parce que c'est important à bien saisir cela. La pauvreté, c'est un esprit, c'est-à-dire c'est une attitude particulière qui consiste à considérer que tous les droits que nous pouvons avoir sont remis à Dieu. Le pauvre en esprit, ou la pauvreté en esprit, c'est remettre ses droits à Dieu. On ne peut remettre ses droits qu'à Dieu quand il s'agit de droits suffisamment profonds. Et l'esprit de pauvreté consiste justement à devenir un mendiant à l'égard de Dieu et à l'égard du Christ. On essaiera de comprendre cela tout à l'heure. Tandis que la vertu, c'est un habitus qui ennoblit l'homme, qui le qualifie. Un esprit n'est pas un habitus, n'est pas une qualité, mais c'est une manière de regarder les choses. C'est une manière de vivre. Il faut donc bien discerner la différence entre virginité et miséricorde, c'est pour ça que je les avais mis ensemble, parce que ce sont deux vertus, tandis que la pauvreté est un esprit particulier. Alors, je regarde d'abord, si vous voulez, virginité et miséricorde. Je crois que ça vaut la peine et que c'est important à regarder. On pourrait discuter à propos de la virginité. Est-ce que la virginité est une vertu qui est propre à l'éthique religieuse ou est-elle propre à l'éthique chrétienne? Et j'avoue que ce n'est pas si commode que cela à préciser. Parce que, de fait, la virginité a existé en dehors du christianisme. Et dans certaines éthiques religieuses, nous voyons des personnes consacrées à la divinité et vivant ce mystère de virginité. Voyez par exemple à Delphes, puisque tout le monde connaît Delphes, il y avait des personnes consacrées à Dieu, consacrées à leur divinité, à Apollon, et qui jouaient un rôle particulier, qui étaient respectés comme des êtres consacrés à Dieu. Et là, il n'y avait pas l'aspect de la révélation chrétienne. Donc c'était uniquement l'attitude religieuse, donc ce que j'appelle une éthique religieuse, puisque nous avions vu qu'il y a trois niveaux d'éthique, l'éthique humaine, l'éthique religieuse et l'éthique chrétienne. Et ça, je crois que c'est très important de bien discerner ces trois niveaux, ce qu'on ne fait pas habituellement. Et je crois que c'est très important pour saisir certains points de vue qui relèvent de l'éthique proprement humaine, c'est-à-dire qui relève de ce que représente, si vous voulez, le point de vue de l'amour d'amitié, puisque je crois que l'éthique humaine est centrée sur l'amour d'amitié. L'éthique religieuse, c'est à partir de la considération que l'homme est une créature dépendante du Créateur et qui adore son Créateur. Alors nous avons l'éthique religieuse. Dans toute éthique religieuse, il y a le mystère de la création et l'adoration. Et l'éthique chrétienne, c'est celle qui nous est donnée à partir du Christ. Et donc à partir de la foi. Puisque c'est à partir de cette alliance particulière qu'il y a avec le Christ en tant qu'il est le fils bien-aimé du Père, que nous pouvons parler d'une éthique chrétienne. Et je crois qu'il faut discerner toujours ces trois niveaux de responsabilité et d'éthique. Parce que si nous ne voyons pas ces trois niveaux, il y a beaucoup de choses que nous ne comprenons pas. Vous voyez, par exemple, par rapport au problème de l'avortement, puisque c'est toujours le problème que nous citons, actuelle, les raisons pour lesquelles on n'accepte pas l'avortement ne sont pas les mêmes en éthique humaine, en éthique religieuse et en éthique chrétienne. Et très souvent, quand on a fait un mouvement contre l'avortement, on ne précisait pas assez. Pourquoi un chrétien refuse-t-il l'avortement? Pourquoi une âme religieuse, les musulmans et les chrétiens, refusent-ils l'avortement? Et pourquoi l'homme, tout simplement comme homme, refuse-t-il l'avortement? Il y a trois motifs différents. Et il est bon de discerner toujours ces trois motifs différents. Et je crois que dans le monde d'aujourd'hui, où nous vivons de fait, dans un monde où les chrétiens, comme chrétiens, ne sont pas la majorité, il faut toujours bien faire le discernement. Autrement, c'est irritant quand vous prétendez un motif chrétien pour quelqu'un qui n'est pas chrétien. Il a envie de vous dire « mais je ne suis pas chrétien ». Il faut lui donner, s'il accepte le Créateur, si c'est une âme religieuse, alors vous devez lui donner un motif religieux. S'il est simplement un homme, vous devez montrer à un médecin qui veut être un homme et qui veut maintenir une certaine éthique humaine, les motifs pour lesquels on ne peut pas accepter l'avortement. Vous voyez, les motifs ne sont pas les mêmes. Alors, voyez le point assez délicat. Qu'est-ce que c'est que la virginité? Il faut d'abord regarder. Puis nous allons essayer de comprendre si, dans la vertu de virginité, cette vertu relève d'une vertu religieuse ou proprement d'une éthique chrétienne. Je sais qu'on pourra discuter. Hein. Alors, je serai très raisonnable dans mon affirmation, parce que c'est un problème qui est intéressant, parce que c'est un problème frontière. Et les problèmes frontières sont toujours très intéressants pour le philosophe, parce que c'est là où, de fait, on doit discerner avec plus d'acuité la raison pour laquelle on affirme cette vertu comme une vertu qui ennoblit l'homme. N'est vertu que ce qui ennoblit l'homme, ce qui rend l'homme plus personne, qui fait qu'il est une personne plus profondément consciente de ce que c'est que son autonomie, de ce que représente le sens de sa finalité et en même temps sa capacité de communication aux autres. C'est le propre d'une vertu. Une vertu qui n'ennoblit pas l'homme ou la personne humaine n'est pas une vertu. Bien, la virginité, c'est un au-delà de la vertu de chasteté qui consiste à consacrer une personne à Dieu. C'est une consécration, c'est pour ça qu'on appelle la consécration des vierges. Et il y a toute une tradition religieuse. C'est une consécration d'une personne humaine à Dieu pour qu'elle soit totalement donnée à Dieu. Normalement, l'être humain peut être lié à une autre personne humaine, l'époux qui choisit son épouse, pour qu'il puisse s'aimer d'un amour d'amitié et d'un amour d'amitié qui peut être plaigné dans le mariage. La virginité, c'est un au-delà du mariage. C'est un dépassement du mariage qui consiste à vouloir être tout de suite et immédiatement relatif à Dieu. Être relié à lui d'une manière telle qu'on offre sa vie et l'offrande de sa vie à Dieu pour l'aimer plus. Saint Thomas souligne, et je crois qu'il a raison de le faire, pas parce que je suis dominicain, mais tout simplement parce que je crois qu'il touche quelque chose de très important, que la virginité ne peut se comprendre que dans la lumière de la contemplation. C'est pour la contemplation qu'on se consacre totalement à Dieu. Il ne dit pas l'adoration, et c'est ça que je souligne tout de suite. Il ne dit pas que l'adoration suffit à comprendre la virginité. Non. Je crois qu'il ne l'a jamais dit. Si vous trouvez un texte où il le dit, vous pourrez me le dire. Je ne crois pas. Autant que la mémoire est fidèle dans ce domaine-là, une chose comme ça, on le retient, parce que c'est quelque chose qui est important à souligner. Il ne dit jamais que l'adoration justifie la virginité. Mais il dit que la contemplation justifie la virginité et que la virginité n'est justifiable que par la contemplation. Ça va très loin. Je ne peux pas justifier la virginité uniquement par des œuvres de charité. Pour être plus libre, pour m'adonner entièrement à des œuvres caritatives, pour m'occuper d'orphelins, pour m'occuper de malades. Alors je me consacre totalement à Dieu. Cet homme a dit que c'est la contemplation qui permet de justifier la virginité. Autrement dit, la virginité implique un tel sacrifice, surtout pour la femme, puisque c'est de fait le dépassement à l'égard de la maternité. La maternité humaine est un accomplissement de la femme. Et non seulement la maternité, mais l'amour de l'épouse à l'égard de l'époux et de l'époux à l'égard de l'époux implique un accomplissement. La femme est le complément de l'homme. Il ne faut pas l'oublier. Et quand je dis complément, je veux dire que, justement, elle est celle qui donne à l'homme la possibilité de son achèvement et elle-même porte l'homme dans son amour. C'est elle qui est l'achèvement et la maternité, quelque chose de tellement grand qu'elle implique justement un achèvement profond de la femme. Pour qu'il y ait ce dépassement de la maternité et de l'amour de l'époux et de l'épouse, il faut donc une consécration telle qu'elle fait que tout l'être humain est ordonné dans l'amour vis-à-vis de Dieu, et donc dans une contemplation. Que ce soit vraiment dans un esprit contemplatif que la femme, ou l'être humain, si vous voulez, se consacre totalement à Dieu. Le dépassement du mariage, qui ne peut se justifier que par la contemplation. Ça va très loin, et je crois que c'est juste, que c'est vraiment la contemplation, une contemplation d'amour, une contemplation qui implique justement une plénitude d'amour, puisque la contemplation telle qu'elle est possible implique une contemplation, implique toujours une plénitude d'amour. Il n'y a pas de contemplation de Dieu en dehors de l'amour. Puisque nous n'avons pas une connaissance directe de Dieu et que dans la foi, nous n'avons qu'une connaissance obscure. Et donc, seul l'amour permet cet épanouissement plénier du cœur et de l'intelligence pour contempler. Si ceci est vrai, je peux dire que la virginité n'est pleinement justifiée que par la contemplation chrétienne, puisque uniquement au niveau éthique religieuse, c'est l'adoration avant tout, et la contemplation peut exister. C'est sûr, il y a une certaine mystique dans toutes les religions, mais c'est une mystique qui reste imparfaite. Il peut se faire, alors c'est là où le point de vue est très très délicat, il peut se faire qu'il y ait une mystique beaucoup plus profonde dans certaines religions, mais qui sont pratiquement des grâces que Dieu donne à ceux qui ont soif de lui sans le connaître, et qui alors atteignent une certaine contemplation mystique très difficile à expliquer. Prenez quelqu'un comme Plotin, je prends Plotin parce que c'est le type le plus caractéristique de cette mystique dite naturelle, ce que je n'aime pas du tout du reste comme expression, parce que je n'aime pas du tout une mystique naturelle, je crois que c'est une mystique tout court. Et nous ne pourrons pas discerner si elle est surnaturelle ou naturelle. Et je crois qu'elle est toujours surnaturelle. Mais elle n'est pas explicitement surnaturelle. Plotin n'a pas connu la révélation. Mais il semble bien que Plotin ait eu des expériences de Dieu. Pendant plusieurs jours, il était en extase, nous dit son disciple, et qu'il était saisi par une présence de Dieu mystérieuse. Il appelle le silence intérieur, il appelle l'unité avec Dieu, énosis. Donc, il semble dépasser absolument l'adoration et entrer dans quelque chose qui est beaucoup plus profond, qui est une attitude mystique. Et cette mystique, je crois, reste une mystique d'amour divine, comme un rapte de Dieu. Il peut y avoir une contemplation philosophique de Dieu. Alors, est-ce que la contemplation philosophique de Dieu justifierait le point de vue de la virginité? Je ne crois pas. Parce que la contemplation philosophique n'est pas la contemplation mystique qui prend le cœur et qui saisit le point de vue de l'amour. C'est le point de vue de l'intelligence. L'amour est présent dans cette contemplation philosophique, mais c'est le point de vue de l'intelligence qui va le plus loin possible dans sa découverte vis-à-vis de Dieu et qui est toute tendue vers le mystère de l'acte pur, qui est en attente de Dieu, qui est en attente de la présence de Dieu. Je crois que seule la contemplation mystique justifie la virginité. Alors, vous voyez comment, dans une éthique religieuse, on pourrait dire c'est exceptionnel. C'est pas exclu, c'est exceptionnel. Et que dans une éthique chrétienne, ce n'est plus exceptionnel, mais ça fait partie de l'exigence de l'éthique chrétienne. Pourquoi ? Parce que Jésus, qui est le médiateur entre Dieu et les hommes, lui-même invite à ce don total et à cette emprise toujours plus profonde de Dieu sur l'âme chrétienne, sur celui qui est le disciple de Jésus, pour vivre de cette présence. Demeurez en moi et moi en vous. Et donc qu'il y ait à l'intérieur même de cette alliance d'amour un don plus total, plus absolu de tout nous-mêmes. Parce que Dieu se donne totalement à travers son Fils bien-aimé, il réclame de nous un don total. C'est Dieu qui fait les premiers pas en Jésus. C'est Dieu qui se donne totalement en Jésus et qui réclame de nous notre réponse. Tandis qu'indépendamment de la révélation, ce n'est pas Dieu qui fait les premiers pas. C'est Dieu créateur qui nous demande l'adoration, qui nous demande d'être tendus vers lui dans la mesure où nous le pouvons, vers une certaine contemplation, mais nous ne pouvons pas de nous-mêmes considérer que le don de tout nous-mêmes est une exigence que Dieu nous demande d'une manière positive. Je crois que ça ne peut être que des cas exceptionnels qui impliqueraient, je crois, une action directe de l'Esprit de Dieu. Tandis qu'en terre chrétienne, il y a une demande explicite du Christ. Et cette demande explicite du Christ et le don explicite de Dieu par Jésus réclament de nous notre réponse. Voilà ce que je dirais par rapport à la vertu de virginité. C'est un témoignage que l'amour de Dieu nous est totalement donné. C'est un témoignage dans une réponse libre à ce don le plus absolu de Dieu pour nous par son Fils bien-aimé. Donc, c'est une réponse de l'homme au don du Christ. C'est d'essayer de comprendre que l'alliance nouvelle est une alliance d'époux et d'épouses. Et parce que cette alliance nouvelle est une alliance d'époux et d'épouses, si Jésus est vraiment l'époux, on répond à son don et on se donne totalement. C'est beaucoup plus difficile, dans une éthique purement religieuse, de dire que Dieu est vraiment l'époux. Il est le Créateur, il est le Maître, il est le Seigneur. Il réclame l'adoration, il réclame l'amour, il réclame une recherche de contemplation, qui n'est pas un état. Et c'est pour ça qu'il me semble beaucoup plus difficile de dire que la virginité, comme telle, comme vertu, qui ennoblit profondément l'âme humaine, peut se comprendre uniquement au niveau éthique religieuse. Regardons maintenant la miséricorde. Est-ce que la miséricorde relève de la vertu de religion ou est-ce que la miséricorde relève directement de la révélation du Christ? N'oublions jamais lorsque Aristote parle de la miséricorde, il nous dit que ce n'est pas une vertu. Il nous dit que c'est une disposition normale vis-à-vis de la mère, vis-à-vis de la femme. La femme est miséricordieuse vis-à-vis des enfants. Et la mère est miséricordieuse vis-à-vis de ses enfants. Mais ce n'est pas une vertu. C'est toujours un peu une faiblesse. Pour lui, la vertu, c'est la justice. Je crois que dans une éthique purement humaine, nous pouvons considérer qu'il y a des actes de miséricorde qui sont nécessaires, mais je ne crois pas qu'on puisse considérer que la miséricorde puisse être une vertu. Vous voyez, j'irai un peu plus loin qu'Aristote. Je ne dirais pas que la miséricorde et tout acte de miséricorde, c'est toujours une faiblesse. Je ne crois pas du tout. Je crois que la magnanimité peut fonder la miséricorde. Mais c'est un acte passager. Ce n'est pas une vertu au sens fort. Et je crois qu'on peut dire la même chose à l'égard de l'éthique religieuse. L'éthique religieuse ne nous lie pas au prochain d'une manière telle que le prochain devient pour nous celui que nous devons aimer du même amour qu'à l'égard de Dieu. Ceci, c'est caractéristique de l'éthique chrétienne. Aimer le prochain du même amour que nous aimons Dieu, cela ne relève pas d'une éthique religieuse ni d'une éthique humaine. Cela ne relève que de l'éthique chrétienne. Et c'est sur ce point que nous pouvons comprendre comment la miséricorde devient une vertu en éthique chrétienne. Et que seule l'éthique chrétienne peut élever la miséricorde à un niveau de vertu. Je vous rappelle ici, c'est un petit signe qui m'intéresse à souligner, que saint Thomas, quand il parle de la miséricorde comme vertu, ne parle pas du tout de la miséricorde à côté des autres vertus. Mais il parle de la miséricorde à la suite de la vertu de charité. Pour bien nous faire comprendre que la miséricorde n'est vertu que grâce à la charité. Sans la charité, je ne crois pas que la miséricorde puisse être une vertu. C'est ce que je vais essayer de vous expliquer. Et je crois ça très important. La charité agrandit, la vertu de charité, caritas, hein, la vérité, l'agapé. La charité agrandit notre cœur à la dimension du cœur du Fils bien-aimé, donc de Jésus. Par la charité qui nous a été donnée avec la grâce, par la charité, notre cœur est à la dimension du cœur de Jésus. Notre cœur connaît la profondeur, la largeur. La hauteur du cœur de Jésus. Nous sommes capables d'aimer avec Jésus, d'aimer en lui et par lui. Notre volonté va connaître par le fait même une nouvelle dimension de profondeur et d'extension. Puisque la charité est universelle, comme l'amour même de Dieu est universel. Il est à la fois particulier et universel, comprenez bien. Dieu fait luire son soleil sur les bons et les mauvais. Ça, c'est le signe de cet amour absolument universel. Dieu ne fait pas luire son soleil uniquement sur les croyants. Ce serait très commode. Hein. Il y aurait d'un côté du trottoir le soleil et de l'autre côté, hein, il y aurait la pluie. Alors les croyants à droite et les autres hein, de l'autre côté. Non, Dieu fait luire son soleil sur les bons et les méchants. Il y a ce regard universel de l'amour de Dieu. Eh bien, la charité nous donne ce même regard. Je ne peux plus, au point de vue de la charité, diviser l'humanité en deux catégories. Les gens qui me sont sympathiques et les gens qui me sont antipathiques. Ça, c'est une division tout à fait sensible et humaine, qui est tout à fait normale. Pour chacun d'entre nous, nous avons des gens sympathiques et des gens antipathiques. Celui qui ne dirait pas ça, ça prouve qu'il lui manque un peu de sensibilité. Mais pour chacun d'entre nous, nous avons des gens sympathiques et des gens antipathiques. Il y a des gens qui nous tapent sur le système et des gens, au contraire, que nous aimons beaucoup. Ben, c'est normal, ça. Ne pas le voir, ce serait un manque de sensibilité, tout simplement. Mais la charité nous fait dépasser cela. Et dans la charité divine, nous aimons ceux qui nous tapent sur le système, et puis ceux au contraire qui nous sont sympathiques. Et nous les aimons du même amour, c'est ça qui était plus extraordinaire. Nous les aimons du même amour, nous les aimons parce que Dieu les aime. Parce que le Christ les aime, et nous les aimons pour eux-mêmes, et du même amour. Alors d'un côté, on est patient vis-à-vis d'eux, et de l'autre côté, on est empressé, et il y a la hâte de l'amour. Il y a un exercice un peu différent, n'est-ce pas ? Mais l'intensité de l'amour demeure le même. Mais l'exercice est forcément un peu différent, ça ne peut pas être autrement. C'est normal, sauf si le Saint-Esprit, alors... vient faire que ceux qui nous sont un peu moins sympathiques, et ils nous donnent un surcroît d'amour pour que nous puissions les aimer avec vraiment une intensité très particulière. Mais c'est ça qui est important de noter, c'est que l'agapé agrandit notre cœur à la dimension du cœur de Jésus. Par le fait même, notre cœur devient capable d'exercer la miséricorde, non pas d'une manière passagère, mais d'une manière stable. L'habitus implique une stabilité. L'habitus est la vertu, implique une stabilité. C'est quelque chose qui est inscrit en nous et qui nous permet de faire normalement des actes de miséricorde. Quand nous rencontrons quelqu'un qui a besoin de nous, quelqu'un qui souffre, quelqu'un qui est blessé, nous nous arrêtons près de lui et nous l'aimons. Non pas d'un amour humain par sympathie, mais tout simplement parce que Dieu, Jésus, l'aime. Et nous l'aimons du même amour. Ceci, c'est très important à noter. C'est à cause de la charité que nous sommes capables d'aimer nos ennemis et que nous sommes capables d'exercer auprès des êtres qui souffrent, qui agonisent, un geste de miséricorde. Au point de vue purement humain, au point de vue philanthropique, au point de vue de l'amitié humaine, nous aimons ceux que nous avons choisis et nous les aimons d'un amour unique. Mais ceux que nous avons choisis, d'un amour d'amitié, vis-à-vis des autres, nous avons du respect. La justice réclame le respect, parce que c'est un homme, et nous avons le respect. Nous pouvons, momentanément, d'une manière héroïque, exercer des actes de charité vis-à-vis de ceux que, humainement parlant, nous n'aimons pas du tout. Nous avons plutôt un sentiment de répulsion vis-à-vis d'eux. Alors nous pouvons momentanément les aimer et faire vis-à-vis d'eux des actes de miséricorde. Mais c'est momentané, c'est passager, ce n'est pas stable. C'est pour ça que je dis un acte héroïque. Et je crois que c'est la même chose du côté de la vertu de religion, de l'éthique religieuse, que l'acte d'adoration nous fait respecter plus profondément le prochain que si nous n'avions pas ce lien d'adoration à l'égard du Créateur qui nous permet de regarder celui qui est proche de nous comme une œuvre de Dieu, comme un chef-d'œuvre de Dieu, et de le regarder dans la lumière même du Dieu créateur, et de respecter en lui ce qu'il y a d'unique. Quand nous regardons ceux qui sont proches de nous dans la lumière du Créateur, nous découvrons en chacun d'eux quelque chose d'unique. C'est ça qui est merveilleux. Dans chaque créature, il y a quelque chose d'unique que je ne retrouverai jamais en dehors de lui. Et c'est pour ça que j'ai un tel respect vis-à-vis de lui et un tel amour vis-à-vis de lui. Mais un amour qui n'est pas l'amour d'amitié, qui est l'amour parce qu'il est chef-d'œuvre de Dieu, parce qu'il est l'œuvre de Dieu. Et si je le vois blessé, j'essaierai d'avoir vis-à-vis de lui un acte héroïque de miséricorde. Mais je ne peux pas dire que la vertu de miséricorde puisse s'épanouir dans mon cœur. La vertu de miséricorde ne peut s'épanouir dans mon cœur que grâce à la charité divine, à la charité qui vient du Christ. Alors à ce moment-là, il y a une vertu de miséricorde qui me permet de regarder tous ceux qui sont proches de moi et qui sont blessés, dans la lumière même de Jésus et de les aimer comme Jésus les aime. Je crois que seul l'agapé permet l'éclosion de la vertu de miséricorde. C'est donc une vertu typiquement chrétienne. Elle est au niveau moral, puisque je ne peux pas faire un acte de miséricorde à l'égard de Dieu, c'est toujours à l'égard des hommes. Elle est au niveau moral, elle me fait regarder les hommes, mais elle me fait regarder les hommes dans un regard divin. Et ceci alors me permet de comprendre que ce qu'il y a de plus profond dans le cœur de l'homme, c'est sa capacité de miséricorde. C'est quelque chose de tellement profond que ça ne s'explicite, que ça ne peut s'actuer et s'épanouir que grâce à la charité divine. Mais est inscrit dans le cœur de tout homme un appel à la miséricorde. Et supprimer cet appel à la miséricorde dans le cœur d'un homme, c'est peut-être ce qu'il y a de plus démoniaque. Voyez, quand Hitler voulait supprimer dans le cœur de ceux qu'il choisissait pour être le levain de son armée, il fallait qu'il supprime en eux tout sentiment de miséricorde. Et il y avait une école progressive pour cela. Il fallait d'abord que, voyant des animaux qui souffrent, ces jeunes, pris à 14 ans, durcissent leur cœur, n'aient aucun sentiment. Puis après, c'était des hommes. Il fallait qu'en face d'hommes qui souffrent, ils se durcissent. Et n'ait aucun sentiment de miséricorde. Je crois supprimer dans le cœur de l'homme le sentiment le plus profond de la miséricorde, c'est effacer dans le cœur de l'homme l'image de Dieu. En effet, la miséricorde, c'est la qualité par excellence de Dieu. C'est la qualité des qualités. Dieu seul est totalement miséricordieux. Dieu seul est toujours miséricordieux. Je crois que c'est la qualité dominante de Dieu, c'est la miséricorde. Dieu est amour, et parce qu'il est amour, il est miséricordieux. Alors si l'homme est créé à l'image de Dieu, s'il est créé à sa ressemblance, ce qu'il y a de plus propre de Dieu et le plus inscrit dans le cœur de l'homme en tant qu'image de Dieu, et ce qu'il y a de plus profond dans le cœur de l'homme, ce qu'il y a de plus profond dans le cœur de l'homme, c'est justement cette capacité qu'il a d'être miséricordieux, de répondre, si vous voulez, en face de la misère, d'envelopper cette misère. Mais, par nature, le cœur de l'homme est trop petit, la volonté de l'homme est trop fragile pour être vraiment miséricordieux, pour acquérir la vertu de miséricorde. On a des dispositions qui relève de notre tempérament, qui relève de notre attitude. Mais ça ne va pas plus loin. Ce sont des dispositions. Ce n'est pas vraiment une vertu. une détermination qui permet de se pencher vis-à-vis de la misère de l'autre d'une manière habituelle, d'une manière joyeuse. C'est vraiment la charité qui vient épanouir ce qu'il y a de plus profond dans le cœur de l'homme en tant qu'image de Dieu, par où il est proche de Dieu. C'est cela que la charité divine va épanouir d'une manière unique, par la vertu de miséricorde. Par la vertu de miséricorde, nous sommes à la ressemblance de Dieu. Et nous répondons à ce qu'il y a de plus divin, comprenez bien, en Dieu, de ce qu'il y a de plus qualitatif en Dieu, la miséricorde. Au point de vue humain, nous ne pouvons pas acquérir la vertu de miséricorde. Vous savez bien, la miséricorde, ça implique trois choses. Regarder le mal de l'autre. Compatir à ce mal et soulager l'autre. Il y a trois moments dans la miséricorde. Connaître le mal de l'autre, c'est déjà pas si commode. Surtout quand on souffre. Quand notre cœur souffre, on n'a pas tellement envie qu'il souffre encore. On a instinctivement une mesure de défense. Connaître le mal de l'autre. Le connaître comme on connaît le mal, c'est-à-dire d'une connaissance affective, aimante, pas par mode de statistique. La statistique n'a rien à voir avec la miséricorde, mais par mode de connaissance aimante. Alors on connaît la misère de l'autre. On connaît la misère de l'autre pour compatir. La compassion fait partie de la miséricorde. On porte le mal de l'autre comme si c'était mon mal, comme si c'était notre mal. Nous le portons en nous. Et une fois que nous portons le mal de l'autre en nous, autant que nous le pouvons, nous mettons tout en cause pour le libérer. Libérer l'autre du mal, la théologie de la libération, se rattache à la théologie de la miséricorde. Il ne faut pas l'oublier. Et c'est un élément de la théologie de la miséricorde, la vraie théologie de la libération. Ça ne se rattache pas du tout à la justice, mais ça se rattache à la miséricorde. Et c'est la miséricorde qui nous permet de libérer les autres. Alors nous comprenons très bien que sans la grâce de Dieu, nous pouvons peut-être connaître la misère des autres. Nous pouvons peut-être compatir momentanément. Mais nous sommes incapables de libérer. Il faut la grâce de Dieu pour nous permettre de libérer. Donc, nous pouvons dire que la vertu de miséricorde est propre à l'éthique chrétienne. Il me reste alors le dernier point, le point de vue de la pauvreté. Je vous ai dit tout à l'heure, la pauvreté, c'est un esprit. Ce n'est pas une vertu. La pauvreté, l'esprit de pauvreté, provient du don de crainte et d'un don du Saint-Esprit. Voilà ce que nous disons au point de vue théologique. C'est le dépouillement intérieur de tous nos droits pour nous mettre dans une attitude de dépendance plus étroite à l'égard de Dieu Providence, à l'égard de Dieu Amour. C'est nous mettre dans une attitude de plus grande dépendance être tout entier relatif à Jésus pour recevoir sa miséricorde. La pauvreté n'est jamais voulue pour elle-même. La pauvreté est voulue pour la miséricorde. C'est donc une attitude relative à celui qui est capable de nous faire la miséricorde. Voyez le pauvre, hein, le pauvre mendiant. Quand vous passez, il tend la main, parce qu'il espère que, et en tendant la main, il exprime sa pauvreté. Et si vous le connaissez bien, vous savez bien discerner entre un geste de véritable pauvreté et un geste uniquement de manifestation. Le vrai pauvre. La vraie pauvreté est intérieure, mais elle se manifeste. La vraie pauvreté, c'est de nous mettre relatifs à celui qui est capable de nous soulager, de nous aider, de nous porter pour que nous puissions recevoir en plénitude sa miséricorde. Il y a un lien entre pauvreté et miséricorde. Oui, on ne peut pas aimer la pauvreté pour elle-même. On aime la pauvreté pour être un mendiant de Dieu. On aime la pauvreté pour être revêtu de la miséricorde de Dieu. Parce qu'on sait très bien que tout ce qui en nous n'est pas dans cet esprit de pauvreté limite la miséricorde. La miséricorde, ça ne peut se faire qu'à deux. Vous savez bien, ça ne peut se faire qu'à deux. Il faut quelqu'un qui reconnaissent sa pauvreté pour qu'on puisse faire la miséricorde. On a tous connu, et on connaîtra tous dans notre vie, cette chose terrible de sentir des gens, des personnes humaines, qui refusent de reconnaître leur pauvreté et qui, par le fait même, refusent la miséricorde qu'on pourrait faire. Je crois que c'était une des souffrances les plus grandes du cœur de Jésus, ça. À l'égard des pharisiens. Les pharisiens, ce sont ceux qui n'avouent pas leur pauvreté et qui considèrent qu'ils sont capables par eux-mêmes de pouvoir s'en tirer. Ils sont autosuffisants dans tous les domaines. Dans le domaine religieux, avant tout, dans le domaine vertueux, dans le domaine de la prière, dans le domaine du jeûne, dans le domaine de l'intelligence, ils sont autosuffisants. Ils n'ont pas besoin de recevoir la miséricorde. Et si on veut leur faire la miséricorde, ils diront, non, pas pour moi, vous vous trompez de porte. Et on a tous, dans notre vie, senti ça. Certains êtres qui refusent de recevoir la miséricorde. Parce qu'ils se considèrent comme étant suffisamment parfaits. Ils cachent leur pauvreté, ils ne l'avouent pas. Pour des quantités de motifs, du reste. Pour des motifs très variés. Et donc, à ce moment-là, on ne peut pas exercer la miséricorde. On exerce la miséricorde qu'à l'égard d'un pauvre. Un pauvre qui accepte, qui reçoit. Alors, il y a une œuvre commune qui se fait entre le pauvre et celui qui fait la miséricorde. Et c'est très beau, cette coopération. C'est une grande coopération radicale entre le pauvre et celui qui fait la miséricorde. C'est en ce sens-là que saint Augustin, quand il commente le passage de saint Jean de la femme adultère et de Jésus, il nous dit, nous sommes en présence de tout l'évangile, la miséricorde et la misère. Et c'est très, très grand. Et c'est ça la nouvelle alliance, dans ce cas-là de plus profond. C'est l'alliance avec le pauvre. C'est l'alliance avec celui qui reconnaît qu'il est pécheur et qui reçoit la miséricorde en plénitude. Et c'est ça qui est le plus grand. Alors vous comprenez que si la miséricorde relève comme vertu de l'éthique chrétienne, parce qu'elle relève de l'agapé, nous comprenons tout de suite que l'esprit de pauvreté ne peut exister pleinement que dans une éthique chrétienne. L'esprit de pauvreté existera déjà avant, puisque nous avons souligné qu'il peut y avoir des actes de miséricorde, mais qu'il ne peut pas y avoir la vertu de miséricorde. De sorte que l'esprit de pauvreté ne pourra pas être un état en dehors de l'éthique chrétienne. Ce sera passager, exactement comme la miséricorde, puisque ça se correspond. Être capable de recevoir la miséricorde du Christ, de recevoir la miséricorde de tous ceux qui sont les représentants du Christ, de tous ceux qui sont les instruments du Christ. Être capable de recevoir cette miséricorde exige cet état particulier de pauvreté qui relève de la plénitude de l'amour. C'est pour ça que ça relève d'un don du Saint-Esprit. Et donc ça relève de la plénitude de l'amour. Comme la miséricorde relève de l'agapé, l'esprit de pauvreté relève aussi de l'agapé, relève aussi de la charité. Tous les deux sont des fruits de la charité et sont peut-être les fruits les plus visibles de la charité. Et je crois que ce sont les fruits les plus visibles de la charité. Et ils nous font le mieux comprendre ce qu'il y a de si particulier dans l'éthique chrétienne. L'éthique chrétienne est une éthique qui va le plus loin dans la surabondance de l'amour et qui va le plus loin dans la petitesse, dans le dépouillement, dans la nudité. C'est une éthique du pauvre. L'éthique religieuse et l'éthique humaine ne sont pas une éthique du pauvre. Tandis que l'éthique chrétienne est une éthique du pauvre, une éthique de l'esprit de pauvreté et une éthique qui assume toute espèce de pauvreté. J'aime beaucoup de prêcher à l'Arche de Jean Vanier l'alliance avec le pauvre. Jean Vanier a cherché comment l'Arche pouvait, d'une certaine manière, se rapprocher de l'Église. Puisque Jean Vanier dit, la première Arche à Trolley, elle était catholique, la seconde aussi, la troisième au Canada a été protestante, et la quatrième, elle était dans l'Inde, elle n'était plus chrétienne. Comment maintenir l'unité ? Si on fait de l'Arche une œuvre catholique, alors on exclut les autres. Alors qu'il y a un esprit commun. Et cet esprit commun, c'est de regarder le pauvre. Et alors, on a beaucoup réfléchi ensemble pour essayer de comprendre comment on pouvait structurer un peu. Et on est arrivé à cette conclusion qu'il faut l'alliance avec le pauvre. L'alliance avec le pauvre relève d'une éthique commandée par l'éthique chrétienne, c'est bien évident, mais que tout le monde peut comprendre. Mais elle dépend, je crois qu'il n'y aurait pas l'alliance du pauvre s'il n'y avait pas d'abord l'éthique chrétienne. Et dans la lumière de l'éthique chrétienne, on peut alors faire l'alliance avec le pauvre. L'alliance avec le pauvre, l'alliance avec le pauvre dans le Christ, l'alliance avec le pauvre dans le cœur de Jésus et le cœur de Marie. Alors, on comprend comment cette alliance avec le pauvre qui est propre à l'éthique chrétienne peut s'étendre jusqu'au point de vue humain. Puisque le point de vue chrétien nous permet de comprendre ce qu'il y a de plus profond. profondément humain. L'éthique chrétienne, nous montrant ce qu'est la vertu de miséricorde, nous fait comprendre que ce qu'il y a de plus profond dans le cœur de l'homme, par où il est à l'image de Dieu, c'est sa capacité d'être miséricordieux. Et que supprimer cette capacité d'être miséricordieux, c'est de briser dans le cœur de l'homme ce par quoi il est le plus proche de Dieu. L'éthique chrétienne nous fait comprendre comment la vertu de miséricorde appelle l'esprit de pauvreté. Et par là, nous comprenons qu'à l'égard de Dieu, le pauvre est sacré. Parce que le pauvre n'est vraiment pauvre que face à Dieu, à qui il remet tous ses droits. Et à qui il peut remettre tous ses droits. Et dans cette lumière, nous comprenons alors comment la pauvreté, même au point de vue humain, peut ne pas être considérée comme une indignité. Elle ne touche pas à la dignité de la personne. Je m'arrête et nous continuerons la fois prochaine, si vous le voulez bien.